RCF.
Je le veux en but. Ici la Yarre Nouvirène, ou Banel, grand nouvelle à Gorsel.
Regard sur Kerr Dévot, cathédrale de campagne avec Yves-Pascal Castel. Quatrième émission consacrée à Kerr Dévot, cathédrale de campagne, avec vous Yves-Pascal Castel. C'est le titre d'un ouvrage paru en fin 2018 et consacré donc à ce joyau du patrimoine finistérien. Nous continuons de le découvrir. Que dire pour commencer cette émission, Yves-Pascal, du calvaire de Kerr Dévot ?
Eh bien, c'est l'un des sept calvaires du Finistère qui présente des apôtres, soit dans des niches, soit d'une autre façon. Ici, les niches sont disposées sur les quatre côtés de ce qu'on appelle un mas, bon, une base si on veut, comme on appelle en termes techniques la puissante structure architecturée qui forme justement cette base. Or, elles sont toutes vides. Et le mas qui porte sur sa plateforme les trois croix ne présente pas, comme sur d'autres monuments du genre, diverses scènes empruntées au récit de la Passion. Demeure simplement une déposition de croix où la Vierge Marie, portant le Christ sur les genoux, est accompagné un peu en retrait du Saint Jean d'un côté et de trois autres femmes, trois autres saintes femmes de l'autre.
Alors que dire du fût de la croix maintenant de ce calvaire de Kerr Dévot ? Il est hérissé de bubons ou de boutons. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, j'ai de dire que ça rappelle la peste bubonique. Moi, je pense que il faut dire aussi que ça rappelle les branches d'un tronc qu'on vient d'écoter, quoi, d'un arbre vert. Mais enfin, les deux significations courent les livres qui portent sur les croix et sur les calvaires. Alors, à l'avant de ce fût de croix, il y a la figure de Saint Véronique. C'est le nom donné par la tradition, non pas par l'Évangile, à la femme qui vit s'imprimer sur son voile les traits du visage de Jésus qu'elle venait d'essuyer pour le rafraîchir lors de la montée au calvaire. Et à l'arrière du fût, en haut relief, Saint Michel se montre terrassant le dragon, et cette figure de l'archange se retrouve sur le fût d'autres calvaires, comme à Brasparts, Saint Philibert de Moëlan, entre autres.
Alors, il faut dire que la croix centrale de ce calvaire de Kerr Dévot, eh bien, a connu une piètre restauration.
Oui, après la Révolution. La Révolution a fait des dégâts, il fallait restaurer. Et la gêne que l'on éprouve provient de la console qui est soutenue par deux figures animales rudimentaires. Ce sont des monstres au corps dentelé, sorti de l'outil d'un tailleur de pierre d'occasion, mais plein de bonne volonté. La console primitive, ne devant pas être perdue, elle sert de support au bénitier qui est en face de l'entrée sud de la chapelle de Kerr Dévot. En revanche, le mauvais larron, dans ses contorsions, semble bien être de l'époque du calvaire du XVIe siècle, alors que le bon paraît daté de la restauration post-révolutionnaire. Le crucifié, avec les anges hématophores, c'est-à-dire ceux qui portent des calices, dans leur calice le sang de Jésus, sont d'origine.
Thank you. Sur RCF avec Yves-Pascal Castel, nous regardons le calvaire de Kerdévot. Alors, on trouve une Vierge à l'enfant au revers du crucifix de ce calvaire, Yves-Pascal.
La Vierge à l'enfant au revers du calvaire, du crucifix, pose les pieds sur une figure féminine que l'on considère comme l'Ève, la première femme, l'Ève de la tentation, par la faute de qui le péché est entré dans le monde, selon le récit de la Genèse. C'est le lieu de rappeler le jeu fait sur le mot, le premier mot de l'Ave Maria, Ave, Eva.
Que dire maintenant des statues géminées qui encadrent le Christ?
Ce sont des statues doubles qui montrent au revers de la Vierge et de Saint Jean d'autres saints difficiles à identifier. On peut simplement remarquer que les phylactères, les banderoles qu'ils tiennent en main, longues, étaient destinées à porter une inscription quelconque. Elles étaient déchiffrables lorsque, jadis, dans les temps très anciens, le calvaire était coloré.
On ne sait pas, Yves-Pascal, par contre, ce que sont devenus les statues des 12 apôtres de ce calvaire de Kerdévot.
Ah, dans l'ouvrage Kerdévot, cathédrale de campagne, Jean Guiguin et François Ach se posent la question. S'ils répondent par la négative, on n'en sait rien, ils rappellent la tentative faite naguère, au siècle dernier, au XXe siècle, par le recteur d'Erguet, l'abbé Gustave Guiguin. Lui voulait relayer la sculpture, le souhait de Madame Bolloré. Madame Bolloré était une fidèle de Kerdévot et elle avait promis à Notre-Dame de Kerdévot, au départ de ses deux fils pour l'Angleterre en 1942, qu'elle ferait ici quelque chose si les deux garçons revenaient sains et saufs. Et ce fut en 1954 que, faisant part de son vœu au recteur d'Erguet, Gustave Guiguin, ce dernier, qui avait déjà œuvré pour le sanctuaire de Notre-Dame, lui suggéra de garnir les niches vides du calvaire. On commencerait par 4 statues, comme le rapporte le journal tenu par le recteur, précisant qu'il s'adressait à Betji, un sculpteur de Quimper. Saint-Pierre arriva donc sans tarder avec 3 de ses compagnons. Et mis en place, on pourrait ainsi les admirer au prochain pardon de Kerdévot qui se déroulait le 11 septembre. Mais l'évêque Fouvel et Bernard de Parade émirent des doutes sur la qualité des statues et s'y ajouta indifférent avec M. Caillot, inspecteur tout-puissant des monuments historiques. L'entreprise du recteur de Madame Bolloré échouait. On retira les 4 statues. L'une va se retrouver dans la cour du presbytère d'Erguet-Gabéric. Son attribut, une scie, la désigne cette statue comme représentant Saint Simon. Une autre statue va se retrouver à la retraite, rue Verdelet à Quimper. L'attribut étant une lourde clé, ce n'est donc autre que Saint-Pierre. Une troisième statue trouve place dans une niche de Notre-Dame des Flots à Lesciagate. C'est Saint-Jean qui porte une coupe. Et la quatrième statue avait été recueillie dans la chapelle du manoir Bolloré à Oudette. Notons pour finir notre calvaire la présence au-devant d'une large pierre. Selon que l'écrivait l'abbé Favet en 1893, elle proviendrait du gué de Roudoudoublout, où l'épidémie de peste avait marqué le pas en allant d'Elian à Erguet-Gabéric. Thank you.
Avec Yves-Pascal Castel, nous continuons notre découverte de Kerdévot, cathédrale de campagne. Nous venons de parler du calvaire. Alors, que dire maintenant de la fontaine de Kerdévot, Yves-Pascal?
Oui, on sait que habituellement, les fontaines sont relativement proches des édifices religieux. Il y en a même qui coulent à l'intérieur de leurs murs, comme à la chapelle Saint-Gévroc, dans les dunes de Tréflèges. À Kerdévot, il faut la chercher vers la bordure du champ qui s'étend à l'est de la chapelle. On y venait pour guérir de ses catarrhes et ou de ses fièvres. L'eau de la source, captée dans un bassin, coulait naguère vers un canal au bout duquel deux petits bassins servaient aux ablutions avant d'aller se déverser dans une auge rectangulaire double. Le monument qui coiffe le bassin a son toit en bâtière, flanqué d'épais pinacles accrochés. L'arc en plein cintre s'encadre dans un gable triangulaire assorti de quatre gros choux frisés et flanqué de pilastres épais, plus ou moins bien conservés. Le rude matériau de l'ensemble, un granit à gros grains, granit local, accentue la rusticité de tout ceci. Un marmousé à l'angle allonge sur le côté droit une triste figure, et la pointe du monument porte un blason bien érodé. L'arcade, quant à elle, abrite une statue de la Vierge, une statue en pierre.
Alors il faut maintenant regarder au sommet donc de cette fontaine. Il y a un blason mi-parti, il est composé de trois alliances.
Oui, à dextre, c'est-à-dire à droite, trois mains. À sinistre, il s'agit de Guy Carnoux, un frété aux quatre de Le Lévrier, qui se retrouve dans quelques-uns des écus visibles dans le grand vitrail d'axe de la chapelle. D'azur, ou l'évrier passant d'argent, qui pourrait appartenir au Trémilec de Tromelin, paroisse de Maralon. Ces armoiries taillées dans le granit semblent bien être plus anciennes que celles que l'on peut relever sur le site.
Alors que dire de la statue de la Vierge que l'on trouve sur cette fontaine de Kerdévot?
Oui, un auteur ancien l'a décrit, en parlait de cette manière. Elle paraît, cette statue de la Vierge en enfant, veillée sur les lentilles d'eau du bassin, et elle est constellée de lichen. Ses reliefs, quelque peu adoucis, portent des traces de polychromie, ocre et bleue. L'enfant, penché sur le sein de sa mère, retient dans sa main droite un pan du voile et porte un livre ouvert. L'allure de la Vierge, les détails du costume, le profil des chaussures terminées en pointe, la manière dont la Vierge porte l'enfant font de cette image de pierre bien émouvante une œuvre médiévale, assez bien située dans le temps. Ainsi, avec la fontaine, on pourrait, en avançant que l'œuvre est du XVe siècle, on pourrait ne pas trop se tromper. Il serait alors à ce moment-là la pièce architecturale la plus ancienne du site.
Nous achevons cette émission consacrée à Kerdévot avec son cadran solaire, Yves Pascal.
Oui, il y a chez nous un éminent spécialiste des cadrans solaires, c'est Jean-Paul Cornec. Il a valu dans un ouvrage qu'il y a au moins 2400 cadrans solaires de toutes époques répertoriés en Bretagne, selon ses découvertes. Et on voit cela aussi bien sur les édifices religieux que civils, tant publics que privés. On en trouve encore aussi accrochés au mur dans quelques fermes qui ont conservé de vieilles structures. Les plus anciens cadrans relevés au cours des laborieuses enquêtes de Jean-Paul Cornec pourraient remonter aux années 1560-1580, le XVIe siècle, deuxième moitié. Ces cadrans sont gravés dans le granit, mais le matériau le plus répandu est le schiste, facilité de gravure, meilleure précision dans le tracé du cadran, finesse plus délicate pour la décoration. En Finistère, on citera les véritables chefs-d'œuvre de La Forêt-Fouesnant, de Plébin, de Plourin, de Quimper, de Trébabu. En fait, la majorité des cadrans, en revanche, sont simples.
Alors que dire justement du cadran de Notre-Dame de Kerdévot ?
C'est un exemple de simplicité. On le comprendra en voyant le dessin que Jean-Paul Cornec associe à la photo à la page 142 de l'ouvrage. Et il est fixé sur la façade sud de la chapelle, sous la lucarne de l'escalier du clocher. Et du disque de schiste, plusieurs chiffres ont disparu. Le style, c'est-à-dire la baguette qui va donner de l'ombre en chevron, eh bien, était encore visible sur une photo du début du XXe siècle. Il n'a pas résisté au temps comme souvent. Le tracé des lignes horaires est correct, excepté les deux lignes supérieures qui n'ont pas lieu d'être sur un tel cadran qui est accroché verticalement.
Que dire de la décoration de ce cadran ?
Il est décoré d'un soleil à 8 rayons. 4 sont évasés et 4 autres sont effilés et pointus. Bien que dépourvu de date et d'inscription, il est possible, en considérant la forme particulière des chiffres, de dater ce cadran solaire du milieu du XVIIIe siècle. On peut donc penser qu'il avait survécu à la chute du clocher en 1701. Pour plus d'informations sur le monde assez secret des cadrans solaires, on pourra consulter l'ouvrage intitulé « Cadrans solaires en Bretagne » édité chez Scholvreys en 2010 avec la collaboration de Pierre Labatte-Ségalin, un livre de Jean-Paul Cornec.
Yves Pascal, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette quatrième émission consacrée à Kerdévot Cathédrale de Compagne, à partir de l'ouvrage qui lui est dédié. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous parlerons des bannières de Notre-Dame de Kerdévot. Merci à Guillaume Thiénot qui assurait la réalisation technique de cette émission. À très bientôt, Kenavo.